Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, bonjour l'Afrique, ravi de vous retrouver sur les ondes de VOA Afrique, Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 16 novembre 2014. Depuis Washington, Morgane Guiriec et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, le Burkina Faso a un nouveau chef de la transition. Il s'agit de Michel Kafando, figure de la diplomatie burkinabé, qui a été ambassadeur du pays auprès des Nations Unies.
Une personnalité comme définie dans la charte de renommée internationale et qui joue aussi d'une certaine renommée dans son pays. Il est très discret, très calme.
Dans le nord-est du Nigeria, une kamikaze a fait au moins 12 morts dans un marché de la ville d'Azaré dans l'état de Bauchi.
Lutte contre l'Ebola au Mali, la sensibilisation s'organise dans tout le pays, notamment dans les mosquées.
En cas d'épidémie, si vous êtes dans la zone contaminée, ne sortez pas de la zone. Si vous n'êtes pas arrivé, n'y accédez pas. Ça montre à quel point l'islam est d'abord une religion qui prévient.
Un troisième otage américain décapité par les militants du groupe État islamique.
Et le président américain Barack Obama met en garde la Russie contre de nouvelles violations du droit international en Ukraine. Sans oublier nos pages sport et musique, mais avant le journal.
Le Burkina Faso a donc un nouveau chef de la transition. Il s'agit de Michel Kafando, figure de la diplomatie burkinabé, qui a été ambassadeur du pays auprès des Nations Unies, Morgane.
Un collège de 23 membres où l'opposition était majoritaire l'a désigné hier soir pour remplacer le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui assurait la direction de l'État burkinabé depuis le départ du président Blaise Compaoré le 31 octobre dernier. On fait le point avec notre correspondant sur place, Zoumana Wonogo.
Michel Kafando, c'est un diplomate de carrière. Il a été ministre des Affaires étrangères de 82 à 83. Et en 1981, déjà, il a été ambassadeur du Burkina Faso auprès des Nations Unies. Et il est reparti en 98 jusqu'en 2011, où il a pris sa retraite. Il a été aussi le président du Conseil de sécurité de l'ONU de septembre 2008 et en décembre 2009. Michel Kafando a 72 ans. C'est une personnalité comme définie dans la charte de renommée internationale et qui joue aussi d'une certaine renommée dans son pays. Il est très discret, très calme. Et donc, le collège de désignation a porté son choix sur lui en estimant qu'il peut faire l'affaire de la transition.
Quelles ont été ses déclarations?
Ses premiers mots ont été naturellement remercier le collège de désignation, le chef de l'État, le lieutenant-colonel Zida. Et ensuite, il est revenu très rapidement sur les circonstances de la transition, à savoir l'insurrection. Et pour lui, cette insurrection a un nom, c'est l'injustice, c'est la corruption, la malgouvernance. Donc, ce sont des fléaux auxquels il promet s'attaquer pour plus de justice au Faso et donc plus de paix au Burkina. Mais il assure que ça ne peut pas être l'œuvre d'une seule personne. Donc, c'est en se donnant la main qu'on peut atteindre ses objectifs de justice pour tous.
Et comment la nouvelle a-t-elle été accueillie à Ouagadougou?
Une appréciation de la nouvelle sur le plan populaire n'est pas possible pour le moment parce que le collège a commencé son travail à 18h et finit à 3h40 à Ouaga. Donc, les Ouagalais dorment. C'est seulement à partir de ce matin-là que les Burkinabés vont se réveiller avec leur nouveau président.
Voilà, c'était notre correspondant au Burkina Faso, Zoumana Wonogo.
La journée d'hier a donc été longue et riche en rebondissements à Ouagadougou. Avant de désigner Michel Kafando à la tête de la transition, les civils et l'armée avaient signé la charte officielle de la transition, qui doit servir de constitution intérimaire et proposer une liste de 5 candidats pour le poste de président. Sur le processus qui a abouti au choix de Michel Kafando, écoutons le journaliste Dieudonné Zungrana.
Je pense que c'est bon, mes impressions sont bonnes parce que je me dis que toute la ligne a été respectée et puis les vœux des uns et des autres, c'est-à-dire la société civile, de l'opposition et des militaires, ont été aussi respectés et je pense que vraiment tout déroule normalement jusqu'à présent.
Et qu'est-ce que vous souhaiteriez pour la prochaine phase de la transition?
Le président dirigeants civils qu'ils puissent conduire la transition civile jusqu'à terme, c'est-à-dire jusqu'en novembre 2015, et qu'on puisse organiser les élections, la présidentielle de 2015. Je pense que c'est le vœu de tous les Burkinabés qui veulent sortir de la mort Kaki, parce que vous savez que depuis 1966, sur sept présidents, il y a eu six militaires. Donc les Burkinabés veulent maintenant un président civil. Ils espèrent qu'après cette transition, on aura effectivement une présidentielle ou un président civil sera élu.
Dieudonné Zungrana, joint à Ouagadougou par Chérubin Dorsil. Voilà pour cette page spéciale sur le Burkina Faso. Dans le reste de l'actualité, Morgane.
Violence dans le nord-est du Nigeria. Une kamikaze s'est fait exploser hier dans un marché de la ville d'Azaré, dans l'état de Bauchi. L'attaque, qui a fait au moins 12 morts, n'a pas été revendiquée, mais les islamistes de Boko Haram ont déjà mené plusieurs attentats dans cette région. Plusieurs témoins cités par l'AFP disent avoir vu la kamikaze entrer dans le marché vers 17h50 heure locale, au moment où les stands commençaient à fermer. Un témoin affirme que les deux hommes qui accompagnaient la kamikaze ont tenté de s'enfuir, mais ont été rattrapés. L'un d'eux aurait été lynché à mort et l'autre a été mis en garde à vue. C'est le troisième attentat suicide en quelques semaines à Azaré.
Et plus tôt hier, l'armée nigériane avait annoncé qu'elle a repris le contrôle de la ville de Chibok, dont Boko Haram s'était emparé la semaine dernière. L'opération aurait eu lieu samedi soir et les habitants de la ville disent que l'armée a été aidée par une force d'autodéfense. Rappelons que c'est à Chibok que l'organisation terroriste nigériane avait enlevé plus de 200 écolières, dont on n'a toujours pas de nouvelles.
Le pays d'Afrique de l'Ouest le plus durement touché par l'épidémie d'Ebola, le Libéria, a fixé un nouvel objectif, n'enregistrer aucun cas d'ici à Noël. Le point avec Abdou Chakour Aboud.
Dans un discours à la radio nationale dimanche, le président Ellen Johnson Sirleaf a déclaré que le parcours vers une reprise totale sera difficile. Le système de soins de santé du Libéria doit être mieux préparé pour toute future épidémie de la maladie, avec de nettes améliorations nécessaires aussi dans l'économie et la gouvernance du pays, a-t-il ajouté. Madame Sirleaf a annoncé plusieurs changements dans son cabinet, déclarant qu'il était nécessaire de nommer une équipe de fonctionnaires qui comprennent le défi du moment. Sur 5165 décès causés par l'Ebola en Afrique de l'Ouest, plus de 2800 ont été enregistrés au Libéria. Par ailleurs, 160 personnels de santé chinois sont arrivés au Libéria où ils vont construire et gérer un centre de traitement, selon un communiqué de l'ambassade de Chine à Monrovia. Aucune indication n'a été fournie sur le nombre total de personnels chinois qui seront dépêchés en Afrique pour lutter contre l'Ebola. La Chine avait annoncé en octobre l'octroi de 82 millions de dollars d'aide d'urgence et promis de dépêcher des dizaines de spécialistes pour former des équipes soignantes. Pendant ce temps, aux États-Unis, les autorités ont déclaré que le chirurgien Martin Salia est très malade. Salia, un Sierra-Léonais qui vit aux États-Unis, est soigné dans un hôpital de l'État du Nebraska. Il est le premier ressortissant sierra-léonais malade d'Ebola répatrié aux États-Unis.
Sachez aussi qu'un navire néerlandais transportant l'aide de plusieurs pays européens devrait arriver demain en Sierra Leone. À son bord, des équipements d'urgence, des véhicules, un laboratoire mobile et des équipements de protection individuelle, indiquent les autorités néerlandaises. L'équipage espère ensuite atteindre la Guinée vendredi, avant le Libéria, dernière étape, dans un délai de 8 à 10 jours, a indiqué la télévision publique du Sénégal, où le navire a fait escale.
En Libye, des combats opposant des milices islamistes aux partisans du général Khalifa Haftar, hier à Tripoli, ont fait au moins 4 morts et 10 blessés. Ils ont aussi conduit à la fermeture pendant quelques heures du petit aéroport de Mitiga, dans l'est de la capitale. C'est ce qu'indique l'AFP qui cite des sources militaires.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un troisième otage américain a été décapité par les militants du groupe État islamique. Le président américain Barack Obama a confirmé la mort d'Abdulrahman Kassik, qualifiant cet acte de mal absolu. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
Dans une déclaration à la presse à bord d'Air Force One dimanche, M. Obama a offert des prières et condoléances aux parents et à la famille de Kassik. Il a accusé le groupe État islamique de se complaire dans le massacre d'innocents, dont des musulmans, et de ne semer que la mort et la destruction. Le président était sur le chemin du retour après avoir assisté à la réunion du G20 en Australie. La confirmation de la mort de Kassig est intervenue après examen d'une vidéo diffusée dimanche par l'État islamique, vidéo sur laquelle le groupe prétend montrer également la décapitation d'au moins 18 hommes décrits comme des militaires syriens. Cependant, la vidéo ne montre pas la décapitation de Kassig. Abdulrahman Kassig, connu avant sa conversion à l'islam comme Peter Kassig, était âgé de 26 ans. Ancien ranger de l'armée américaine, il était en mission humanitaire en Syrie, où il a été enlevé il y a 13 mois. Le groupe terroriste État islamique a tué 5 Occidentaux qu'il détenait, 2 Britanniques, David Haynes, un ancien ingénieur de la force aérienne, et Alan Henning, un chauffeur de taxi du nord-ouest de l'Angleterre, et 3 Américains, les journalistes James Foley et Steven Sutloff, puis ce week-end, Abdulrahman Kassig. La décapitation de ce travailleur humanitaire a été condamnée par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne.
Le président américain Barack Obama a mis en garde la Russie contre de nouvelles violations du droit international et des traités visant à mettre fin au conflit ukrainien. Prenant la parole après sa participation au sommet du G20 en Australie, M. Obama a averti que la Russie restera isolée sur la scène internationale si elle ne change pas de comportement en Ukraine. Les précisions d'Henri Francisque.
Selon Barack Obama, les sanctions occidentales actuelles contre Moscou pour son soutien à des rebelles dans l'est de l'Ukraine se sont avérées efficaces. Il a également déclaré que les critiques occidentaux du rôle de la Russie dans la crise se préparent à augmenter la pression, si nécessaire, pour obtenir la coopération du président russe Vladimir Poutine afin de mettre fin au combat près de la frontière. À ce stade, les sanctions que nous avons mises en place ont un effet assez appréciable. Nous conservons les capacités d'accroître la pression si nécessaire et nous avons des équipes constamment à la recherche de mécanismes permettant d'y arriver. L'avertissement de M. Obama et ceux du Premier ministre canadien Stephen Harper et de son homologue australien Tony Abbott font suite à de nouveaux décrets du gouvernement de l'Ukraine visant à isoler davantage le mouvement rebelle pro-russe dans l'est du pays. Le président Poutine a quitté le sommet du G20 dimanche plus tôt que prévu, après une série de réunions à haut niveau. Il a déclaré aux journalistes russes que ce départ précipité est dû à la fatigue et n'a rien à voir avec la discorde sur l'Ukraine.
Enfin, tremblement de terre au large de la Nouvelle-Zélande. Le séisme de magnitude 6,7 a secoué la côte est du pays ce matin. Les sismologues excluent toute menace de tsunami. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Au micro, Morgane Guiriec. On enchaîne sur la partie magazine de notre émission. La France prête main forte au Mali dans sa lutte contre l'Ebola, alors que 2 experts français sont déjà à Bamako. Paris prévoit de renforcer le dispositif de l'aéroport de la capitale et de former des médecins maliens. Le secrétaire d'État français au développement et à la francophonie, qui était de passage, a d'ailleurs rencontré le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Kassim Traoré, notre correspondant, nous amène à Ségou, où la sensibilisation bat son plein, notamment dans les mosquées, les écoles et les établissements publics.
Ségou, la deuxième ville malienne, sensibilise ses populations. Le premier groupe de cible a été les musulmans. La religion musulmane est pour la tolérance et les leaders musulmans de Ségou ne disent pas le contraire, car l'islam s'adapte à toutes les circonstances.
Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Il faut fuir une maladie grave comme on fuit un lion. » Cette fuite n'est autre que le respect des préventions et des mesures édictées.
L'islam sallallahu alayhi wa sallam dit, en cas d'épidémie, si vous êtes dans la zone contaminée, ne sortez pas de la zone. Si vous n'êtes pas arrivé, n'y accédez pas. Ça montre à quel point l'islam est d'abord une religion qui prévient.
La sensibilisation dans la capitale des Balanza ne s'est pas limitée aux religieux. Les autorités ont été dans les écoles et établissements publics.
C'est surtout d'être serein, de ne pas céder à la panique ni à la psychose et d'observer les règles élémentaires d'hygiène.
Les élèves sont suffisamment sensibilisés par rapport à la question, mais il s'agit tout simplement d'être correct, d'être très hygiénique. d'être respectueux déjà des principes qu'on a fait véhiculer au niveau de tous nos établissements pour que le virus ne puisse pas atteindre effectivement la population scolarisée.
À Bamako, le Premier ministre est allé vérifier à la polyclinique Pasteur si le travail a été bien fait. Il s'est rendu dans la famille de l'infirmier décédé dans cette clinique avant de voir les installations au niveau de l'aéroport de Bamako-Senou. Moussa Mara, Premier ministre malien.
Nous sommes à l'aéroport pour nous assurer que, et au départ et à l'arrivée, qu'aucune personne qui pénètre sur la plateforme aéroportière ou qu'aucun voyageur qui arrive de l'extérieur sur la plateforme aéroportière ne puisse échapper. Contrôle. L'objectif est de faire en sorte que le filtre de l'aéroport soit suffisamment dissuasif, soit suffisamment efficace pour qu'il n'y ait aucun risque.
La France a souhaité exprimer sa solidarité envers le peuple malien. C'est tout l'essence de la visite de la secrétaire d'État française au développement et à la francophonie, Annick Girardin.
C'est comment la France peut venir soutenir cette action. Nous allons dépêcher un certain nombre d'experts ici sur place. Deux sont déjà arrivés, notamment pour la préparation au contrôle aéroportuaire, mais aussi de pouvoir intervenir plus de ce qui se fait déjà dans le centre de traitement qui existe ici au Mali.
Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a salué le soutien de la France et de la communauté internationale envers le Mali.
C'est dans les moments d'épreuve que l'on reconnaît les siens. Donc la France, encore une fois, est aux côtés du Mali pour faire en sorte que nous arrivions à contenir cette épidémie-là et à l'aboutir hors de nos, non seulement de nos frontières, mais d'Afrique également aussi. La France, mais la communauté internationale, du président Obama également, nous avons reçu tout le soutien. L'Union européenne.
Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, 442 personnes sont mises en observation pour contrôle sanitaire. Le bilan est de 3 décès et 1 cas en traitement par des services spécialisés. Bamako. Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM. Nous partons maintenant en République démocratique du Congo. Les rescapés des inondations du territoire de Kalehe, à 65 km de la ville de Bukavu, demandent aux autorités de la province du Sud Kivu d'honorer leurs promesses et de les délocaliser vers une autre zone. Les victimes des pluies torrentielles du mois dernier affirment vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes. La société civile demande donc l'ouverture d'un couloir humanitaire. Reportage de Julie Kamuntu, notre correspondante à Bukavu.
Les victimes de cette catastrophe se disent être fatiguées par cette situation et demandent au gouvernement de matérialiser urgentement sa promesse de les délocaliser vers un autre endroit. Le président de l'Union des jeunes pour la paix et le développement de Kalehe affirme que hommes, femmes, enfants et autres personnes handicapées passent la nuit à la belle étoile à la merci des intempéries. D'autres se sont réfugiés dans des familles d'accueil. Elias Kanyena Basera, joint au téléphone depuis Kalehe.
La population qui vit dans des détresses, dans une situation très difficile, où ils passent toujours des nuits à la belle étoile, d'autres dans des familles d'accueil. Il y a eu des tractations des populations qui voulaient manifester, ils étaient partis voir les chefs de sous-village, en exposant les problèmes, mais comme quoi ils souffrent. Parce qu'il y avait une promesse qu'on va délocaliser les gens-là qui habitaient sur les lieux des catastrophes pour les amener quelque part. Alors, ils ont attendu jusqu'aujourd'hui aucune suite qu'ils ont.
La société civile du Sud Kivu se dit choquée par cette situation et recommande aux autorités politico-administratives
d'ouvrir un couloir humanitaire d'urgence en faveur des survivants de cette catastrophe. Des informations en notre possession, à travers nos canaux de base, indiquent des pertes énormes en vies humaines et matérielles, dont un inventaire provisoire estimatif fait état d'une centaine de personnes disparues et plus de 600 maisons dévastées.
Quelques jours après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur le territoire de Kalehe, la nuit du 25 octobre, le gouverneur de province avait promis de délocaliser les familles sinistrées et de construire pour eux d'autres habitations. Depuis lors, silence radio. Bukavu, Jolie Kamuntu, La Voix de l'Amérique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM. À
Après le Rwanda et le Burundi, c'est au tour des hôpitaux du Bénin d'expérimenter le financement basé sur le résultat. Un mécanisme censé apporter plus de ressources aux établissements et plus de motivation pour le personnel soignant. Une vingtaine d'agents venant de plusieurs zones sanitaires du pays viennent de bénéficier de plus d'un mois et demi de formation. De Cotonou, Pégui Ludovic Dagba nous en dit plus.
Le financement des centres de santé relève d'un casse-tête pour les pouvoirs publics en Afrique en général et au Bénin spécifiquement, tant les fonds engloutis ne donnent aucun retour sur investissement. Ceci donne lieu à des réflexions qui aboutissent à des mécanismes porteurs, dont par exemple le financement basé sur les résultats. Docteur Sylvestre Ablé, médecin conseil à AMSES, structure fêtière des hôpitaux confessionnels au Bénin, initiatrice d'une formation axée sur ce mécanisme.
Désormais, les ressources seront allouées grâce aux performances donc des agents de santé. Les ressources seront liées aux performances. Donc le financement donc basé sur les résultats est un véritable facteur de motivation des agents de santé. Il faut donner une reconnaissance au mérite. Celui qui est plus méritant, celui qui est plus performant, il doit avoir une rétribution plus que celui qui n'en a pas. De la même façon, la formation sanitaire qui est plus performante va recevoir plus de ressources financières.
La formation a duré 45 jours et aura réuni plus d'une vingtaine de participants venus de toutes les zones sanitaires du Bénin pour leur enseigner les fondamentaux du financement basé sur les résultats et les moyens par lesquels atteindre ces objectifs. Alexandre Alavokpaou, gestionnaire d'hôpitaux, et Bernard Aniwanou, infirmier épidémiologiste, ont suivi avec grand intérêt les enseignements dispensés.
Essentiellement, moi j'ai retenu que le système de santé c'est un système dynamique et qu'il faut renforcé par des mécanismes de gestion basés sur le calcul des coûts pour pouvoir mieux financer. Il faut financer sur la base du concret en calculant les coûts. Les outputs et les inputs, il faut calculer tout avant de financer.
Désormais, dans nos zones sanitaires, lorsqu'on présente un budget, nous sommes en mesure de l'analyser, de mener des analyses un peu plus pointueuses par rapport au budget qu'on présente, alors que nous n'avons pas fait la comptabilité. Donc, lorsqu'on vous présente des documents financiers, administratifs, quand vous n'avez pas de compétences par rapport à ce domaine, vous lisez seulement, vous ne comprenez pas grand-chose. Ce volet de formation va nous permettre de mieux analyser ces documents, va nous permettre d'appuyer nos collègues dans les zones sanitaires à élaborer correctement leur budget par rapport à ce qui se faisait.
Le financement basé sur les résultats est déjà en expérimentation dans 8 zones sanitaires au Bénin. Pégui Ludovic Dagba, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, Morgane Guiriec en votre compagnie, place maintenant au sport avec Chérubin Dorsil. Bonjour Chérubin.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Et des nouvelles de la Confédération africaine de football sur la Coupe d'Afrique des Nations 2015, phase de qualification.
Eh bien Morgane, on a eu une fin de semaine très active à ce niveau. C'était la 5e journée samedi et déjà qualifiée, l'Algérie s'est imposée 3-1 face à l'Éthiopie à Blida. C'est la 5e victoire en autant de matchs pour les Algériens. Le Cap-Vert, autre équipe déjà qualifiée, s'est défait de Niger déjà éliminé 3-1 dans les dernières minutes du match samedi. Avec ce succès, les Requins bleus s'assurent la première place du groupe F avec 12 points et 4 unités d'avance sur la Zambie, également qualifiée. Le groupe G des éliminatoires de la CAN 2015 a rendu son verdict. Après la qualification de la Tunisie la veille, le Sénégal en a fait de même samedi en allant s'imposer en Égypte 1-0.
Alors une dernière journée pleine de suspense nous attend mercredi.
Oui, comme l'a dit un journaliste de CAF Online, c'est ce que réserve le groupe E des éliminatoires de la CAN 2015. À l'approche du sprint final, seuls 2 points séparent le Ghana, leader, du Togo, lanterne rouge. Tout est donc envisageable. Un scénario rendu possible par la victoire de l'Ouganda face au Ghana, 1-0, mais aussi par le naufrage du Togo à Lomé contre la Guinée, 4-1 samedi. Mercredi, au Maroc, une victoire contre l'Ouganda suffira au bonheur des poulains de Michel Dussuyer. Mission accomplie pour le Gabon. Privé de Pierre-Emerick Aubameyang, les Panthères sont parvenus à ramener 1 point de leur déplacement en Angola, match nul 0-0, et se qualifient donc pour la phase finale. Ainsi, le Burkina Faso, vainqueur du Lesotho 1-0, un peu plus tôt, a pu valider son ticket pour la prochaine phase de la compétition.
Justement, chérubin, retour sur ce match avec notre correspondant Salif Kabouri.
C'est à la première minute de jeu que les étalons du Burkina Faso ont signé la victoire de la qualification par Jonathan Pitropa. Les vice-champions d'Afrique ont cependant subi le match pour diverses raisons, d'après Aristide Bansi.
On pouvait marquer plus que ça, mais bon, c'était pas évident. Voilà, c'était pas évident. C'est un terrain synthétique aussi, voilà, c'était un peu difficile. Voilà, mais pour nous, en tout cas, voilà, c'était les trois points qui étaient les plus importants. Voilà, on pouvait marquer beaucoup.
L'entraîneur des étalons de Burkina Faso, Paul Put, lui salue la victoire de son équipe.
Les Soto, ils ne sont pas perdus. Les derniers 9 matchs à domicile sont aussi joués contre Angola et Gabon. Ça veut dire qu'ils ont une équipe qui sont forts à domicile.
Avec cette victoire, le Burkina Faso devient le seul pays du groupe C à battre le Lesotho à domicile. À Maseru, la capitale du Lesotho, Salif Kabouri, la voix de l'Amérique.
Et des nouvelles de l'Euro 2016 ?
Morgane, les matchs qualificatifs se poursuivent. Parmi les résultats de la quatrième journée, mentionnons l'épreuve de l'Italie qui a été tenue en échec 1-1 par la Croatie. Les Pays-Bas ont sauvé le poste de leur sélectionneur Gus Hiddink en écrasant la Lettonie 6-0 hier. La Belgique a fait match nul face au Pays de Galles, 0-0. Nul également entre la Bulgarie et Malte, 1-1. Et maintenant, Morgane, vous avez des résultats de la NBA, la Ligue professionnelle de basket nord-américain.
Denver, New York Knicks, 93-109. Milwaukee, Miami, 91-84. Houston, Oklahoma, 69-65. C'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Un des artistes top de la soca, c'est bel et bien Benji. Il est très connu et respecté sur la scène internationale. Sa contribution, dont la musique, est très importante et très appréciée. Il a influencé un grand nombre de jeunes artistes musiciens. On l'écoute dans une très belle chanson, Last Jam. L'artiste Benji de Trinidad et Tobago dans la communauté d'Arima, une communauté qui a produit plusieurs icônes du calypso, par exemple Lord Kitchener et Rolly Betoudier, qui ont tous deux joué un grand rôle dans le maintien de la musique traditionnelle Aruma. Benji a fait ses preuves comme l'un des paroliers freestyle le plus compétent. Sa carrière, Morgane, a été jusqu'à présent une carrière phénoménale.
Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Morgane.
Et je vous rappelle que vous retrouvez Roger Muntou tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
Oh Lord, please gentlemen, this is the last song before I leave tonight. Please make your way out of the party, please.
They say this is the last time, but I don't wanna go nowhere. This is the last time, but I don't wanna go nowhere. This is the last time.
Boy, this is the last time.
They say this is the last time.
Something's coming on.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Alain Burson était à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guerrier au micro. Et je vous souhaite une excellente journée.